Ce matin, on parle d'un sujet qui est peut-être un peu moins jojo. Vous avez entendu la voix de Mathias Turcotte, qui est notre journaliste terrain. D'ailleurs,
sa grosse voix.
Oui, sa grosse voix, hein, comme intimidante.
On la reconnaît.
Oui. Si vous voulez lui parler, vous avez des sujets à lui adresser en passant, ça passe toujours par la même place. C'est citoyen@commercialblvd.fm. Citoyen au singulier, il y en a des fois qui se posent la question. Puis vous pouvez envoyer vos dossiers là, vos questions. Matt travaille 24/7 pour vous autres, pas compliqué. Là.
ça se peut que je ne vous réponde pas à 1h du matin. Là.
Mais quand même, t'es proche de ça.
Non,
t'es
si vite vous voulez envoyer un dossier à 1h du matin, le vendredi, envoyez-le à Max. Lui, il est encore réveillé, c'est sûr.
C'est vrai, il est en ligne quasi, vous êtes correct. On parle de l'augmentation de la violence au Québec. Là, vous dites peut-être, Barnouche, je me semble que c'est pas la première fois qu'on en parle. La question, c'est oui ou non. Dans le sens qu'on entend parler, Max, je te vois sourciller, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Okay. Est-ce que c'est réel ou on capote un peu trop? Tu sais, des fois, on en
parle
beaucoup.
Que le oui ou non me demandait, c'était quoi la question?
On en parle beaucoup dans les médias, fait qu'on dirait que ça prend de la place dans nos esprits. Puis en même temps, c'est normal, tu sais, on parle de violence urbaine, de recrutement des jeunes pour des gangs de rue, hausse de violence dans les pénitenciers aussi, mais dans nos rues, erreur sur la personne quand il y a des meurtres qui se retrouvent dans les médias. On dirait qu'il n'y a plus d'éthique, là, en frais de violence. Encore la semaine passée, il y avait un article sur la violence, les jeunes filles à l'école. On lit ça toutes les semaines. Puis c'est dur de se retrouver là-dedans, savoir, bien là, c'est-tu juste des impressions? Puis c'est parce qu'on en parle plus ou réellement, il y a une augmentation de la violence. Chose certaine, n'importe qui est capable de dire c'est un char qui a une augmentation d'intolérance, je vais dire, ça c'est sûr, sur les routes entre autres, mais un peu partout, on est plus intolérant et à fleur de peau. Fait que Matt, t'es allé aux sources, t'es allé jaser avec différentes personnes pour essayer de savoir c'est-tu vrai ou c'est pas vrai. Tu m'avais envoyé une statistique qui disait que 67 % des Québécois trouvent que le niveau de violence a augmenté. Est-ce que c'est le cas? On est-tu dans le champ?
Oui, ben ça, c'est un sondage léger qui est sorti la semaine passée en collaboration avec la CSQ. Puis, veux pas, je pense que c'est l'impression des Québécois en majorité, là, qu'on a l'impression de voir plus de violence partout, qu'elle est plus présente. J'ai donc parlé à Nicolas Sadé, qui est un sociologue et enseignant en sociologie à l'Université de Montréal, pour justement comprendre le tout. Est-ce que c'est vraiment qu'on a une augmentation de la violence? Quel type de violence aussi qui est en augmentation?
Ben oui,
qu'est-ce qui est derrière ça? Tout d'abord, il a commencé à vouloir, en me différenciant, deux choses en particulier. Les violences graves et les tensions. Puis il y en a un pour lui qui est en hausse, puis l'autre qui est en baisse. Je vous laisse écouter.
Il faut dire d'abord, c'est les rapports qui parlent d'une montée de la violence, ils captent quelque chose de réel. Et je pense que ce qui capte, c'est qu'on observe en effet davantage de tensions dans les interactions du quotidien, à l'école, mais dans bien d'autres milieux, vous les avez nommés, ça peut être des milieux sportifs ou d'autres. Alors je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses. Si on regarde les formes de violence les plus graves, avec des indicateurs objectifs, par exemple le nombre d'homicides, les violences, elles ont plutôt diminué sur le long terme au Québec et à Montréal, si on regarde à une échelle d'une vingtaine, une trentaine d'années, même s'il y a eu des fluctuations récentes, et notamment quelques hausses autour de la COVID, mais qui sont des hausses qui n'ont pas inversé la tendance de fond. Donc sur le long terme, on est plutôt dans une diminution de la violence, on n'est pas dans une société qui est globalement plus violente qu'avant, au contraire.
Fait que le monde est juste plus fâché en général, fait que tout le monde se gosse un peu plus, puis tout le monde est un peu violent ses bords, mais moins de violence grave.
Ben, on pourrait le résumer comme ça, effectivement. Là. C'est des tensions, par exemple, entre différents groupes de la société.
Mais des fois, c'est fou, là. Tu sais, la semaine passée, je vais à l'épicerie pour vous donner un exemple bien banal. Il y a une vieille dame qui passe devant moi, puis un homme qui est avec sa conjointe derrière moi. Probablement qu'elle nous a même pas remarqué. Je sais pas ce qu'elle faisait, mais écoute, elle avait deux articles seulement, puis elle a décidé qu'elle passait en devant de nous autres. J'en ai pas fait un cas parce qu'il y avait deux articles, puis mon Dieu, regarde, c'est pas fait. Est-ce que j'ai vraiment du temps à perdre, tu sais? Le gars en arrière, en tabarnak, je veux dire, tout haut, là, voyons, elle, la vieille, c'est quoi cette affaire-là, nous dépasser de même? Puis sa blonde essayait de le calmer, là, puis tu te dis, hey, on est à l'épicerie, un samedi après-midi, peux-tu prendre ton gaz égal? C'est-tu grave? Tu sais? Mais il y a une irritation, on dirait, qui est très, très, très présente.
Une irritation au sein de la société qui va justement créer cette frustration-là qu'on peut voir un peu partout, ces tensions-là qu'on peut voir un peu partout. Mais comment qu'on explique cette tension-là? On va décortiquer ça morceau par morceau parce que quand on évalue, par exemple, des sondages comme celui de Léger, ce qu'on évalue, c'est la perception de la société par rapport à ces tensions-là.
On a l'impression.
C'est l'impression de la société. Puis justement, Nicolas Salé a tenu à préciser que cette impression-là, il faut prendre en compte qu'on a une tolérance de moins en moins basse face à la violence, face à l'agressivité dans notre société.
Il y a aussi notre seuil de tolérance à la violence qui a baissé. Ce type d'enquête-là dont vous me parliez, elle mesure un sentiment. Elle mesure des sentiments, et les sentiments, ils doivent pas être banalisés, hein, évidemment. Mais on est dans des sociétés où, peut-être pour des bonnes raisons, on est de plus en plus attentif à des comportements qui auparavant pouvaient être banalisés, des insultes, l'intimidation, des formes de violence verbale, etc. Alors évidemment aussi, on peut penser à tout le continuum des violences sexuelles, etc. Donc il y a aussi plus de signalements, il y a plus de visibilité. Donc voilà, ma réponse, elle est un peu double. Oui, il y a certaines formes de tension et d'intolérance qui sont plus visibles, parfois en hausse, mais en même temps, on est aussi dans une société qui tolère de moins en moins la violence, qui la rend de plus en plus visible.
Puis ça, on le dit souvent dans différents dossiers, mais mettons qu'on prend les femmes battues. C'est un genre de... Ben oui, on peut voir des augmentations, mais tu peux te dire que c'est en gros guillemets une bonne nouvelle, parce que dans le fond, c'est pas le nombre de cas qui a augmenté, c'est le nombre de dénonciations.
Oui, effectivement.
Oui, avec cette vision-là, oui.
C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, exact, que notre société évolue dans ce sens-là. On peut penser au mouvement MeToo. On n'aurait jamais pu voir ça au début 2005. Là, ça arrive 2020. On a l'impression, mon Dieu, que tout le monde devient des agresseurs, mais c'est des violences qui étaient là au fil.
Puis avant aussi, au-delà de la violence, j'ai l'impression qu'on tolère moins tout court. Tout ce qui nous énerve, tout ce qui... On s'insurge plus rapidement. On déchire notre chemise plus rapidement.
Des fois, c'est positif quand on a des bonnes raisons. Tu sais, je veux dire, dénoncer des violences.
Des fois, c'est brûlant
mais,
aussi.
Mais c'est ça. Puis là, des fois, t'as... Mais des fois, je nous trouve encore patient. Moi, le show que je suis allé voir à Ottawa, là, une couple de fois, j'aurais aimé avoir les couilles d'être moins patient, puis de me revirer, puis de dire à la gang de colons s'affarmer.
De se calmer.
Des fois, j'ai l'impression qu'on pourrait être encore moins patient.
Oh, ben, mettons, tu peux parler pour toi, mais je pense qu'il y en a certains, par contre, qui devraient être plus patients, qui devraient être plus tolérants, qui devraient avoir la capacité à entendre des discours contraire à ce qu'ils pensent, puis être ouvert au dialogue, être ouvert
c'est
à parler.
Parce qu'au final, on vit en société. Tu sais, mettons, je suis d'accord avec toi, ça tape ses nerfs du monde qui se tienne pas là, dans un show. Là. D'un autre côté, c'est un environnement propice à ça. Fait que si toi, t'es pas une personne qui est tolérante dans la vie, mets-toi donc pas dans des situations où tu risques d'exploser, d'éclater ou d'être irrité. Tu sais, mais il y a comme ce double volet-là, là, où c'est bien de s'insurger sur certaines choses, c'est bien d'avoir des limites un peu plus courtes, d'avoir la mèche courte sur une coupe d'affaires, mais d'un autre sens, des fois, je trouve que on peut être patient un peu plus, là, c'est pas...
Mais si je garde l'exemple du show, je vais pas arrêter d'aller voir des shows parce que le monde sait pas vivre.
Je te donne un autre exemple, OK? Parce que les shows, je comprends, t'as raison sur le volet c'est pas vivre,
La fille en avant, elle chante des chansons toutes douces. On entend juste les gros colons pas s'affarmer.
Non, ça je te suis. Mais tu sais, mettons, hier, moi, j'ai remarqué que j'étais intolérante sur une affaire vraiment banale. Puis à un moment donné, je me suis comme auto-ridiculisée un peu en me disant, hey, là, Pinchot, j'ai retrouvé, là. J'étais à l'aquarium avec mon neveu puis ma filleule. Puis mon amoureux, puis mes parents sont venus faire un tour dans la journée. Puis à un moment donné, j'étais vraiment irritée et irritable. Parce qu'il y avait des flots partout, puis ça hurlait, puis ça courait, puis ça criait. Puis moi, tu sais, j'essayais de surveiller les deux miens, mettons, là, tu comprends, pour être sûr de ne pas y perdre. Là.
Mais là, ça bougeait sans cesse autour.
Mais tu comprends-tu que, hey, je suis à l'aquarium un dimanche.
Un milieu pour enfants.
Un milieu qui est pour les familles. T'sais, tu comprends? Il y a ça, je trouve, qu'on perd. Parce que nous, centrés sur nos nombrils, on n'est pas bien, on voudrait que ce soit autrement. Ben oui, mais tu te mets dans ces conditions-là. Mané, parle-toi, là.
Puis c'est intéressant que tu en parles, parce que c'est justement ça que je parlais avec M. Salé, enseignant en sociologie à l'Université de Montréal. Ce manque de tolérance-là qu'on a parfois envers des actes de tendus ou encore de violence, ben ça crée une sorte d'effet backlash qui vient créer une nouvelle intolérance. Je vous laisse vous l'expliquer lui-même.
Dans des sociétés qui sont de fait de plus en plus tolérantes vis-à-vis des minorités, vis-à-vis qui dénoncent de plus en plus les discriminations, etc. Et ben, en dialectique, j'ai envie de dire, en miroir de cette tolérance accrue, ben on a des formes d'intolérance qui qui se manifestent, ce qu'on appelle des effets de retour de bâton, de backlash. Hein, et là, je pense qu'on est dans un phénomène très fort de backlash qui est aussi porté au niveau politique. Voilà, il suffit de regarder au sud de notre frontière chez Donald Trump, mais pas que d'ailleurs, aussi dans notre propre société au Québec, avec des discours politiques qui peuvent se polariser sur ces questions-là.
Puis ça, c'est intéressant parce que justement, par exemple, on peut prendre la tolérance, on peut prendre différents enjeux qui reviennent beaucoup dans la société, les enjeux de genre, même certains enjeux d'immigration. Il y a une grande tolérance qui s'installe chez une certaine partie de la population, mais qui crée une intolérance par le fait même. Une intolérance aux discours qui vont à l'encontre. Par exemple, quelqu'un qui est extrêmement ouvert au genre. Mais dès que quelqu'un a un discours un peu moins intolérant envers une certaine branche, une certaine catégorie, ben là, ça crée de l'intolérance d'un côté, puis là, ça crée de l'intolérance de l'autre côté, puis là, ça crée une sorte de boucle. Non, mais c'est ça, ça crée une sorte de boucle toxique qui, justement, alimente ces tensions-là qu'on vit au sein de notre société.
On n'est pas équilibré, pas en tout. Puis ça, t'as raison, là. C'est comme si on vient sur nos gardes rapidement, tu sais, on est comme à fleur de peau tout le temps, là.
Ben c'est ça, dès que quelqu'un confronte tes idéaux, puis là, tu vires sur la défensive, tu deviens intolérant face à ses propos, parce que on tolère de moins en moins des propos haineux.
Les extrêmes vont toujours, c'est comme les aimants quand ça se repousse, là. Les extrêmes vont toujours se repousser plus loin un et l'autre, parce que là, l'autre dit quelque chose, ah ouais, moi je vais aller encore plus à l'extrême de l'autre bord. Ah ouais, tu vas encore plus à l'extrême, ben moi aussi.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste les extrêmes, c'est aussi juste des personnes qui pourraient être reconnues non extrêmes, mais qui finissent par devenir extrêmes à cause de ça aussi. Puis c'est différent, cette tension-là, cette non-écoute-là, cette incapacité d'avoir un dialogue-là dans notre société qu'on voit, même le politique présentement qui instrumentalise cette haine-là que certains ressentent. On peut le voir avec Donald Trump. Donald Trump, depuis 2016, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un fait. Il instrumentalise la haine que certaines personnes ressentent envers d'autres personnes. Oui. Puis, je veux dire, ça, cette tension-là qui se crée dans notre société, ben ça se répercute dans différents milieux de vie, comme par exemple l'école. T'en parlais tantôt, Audrey, la santé publique, un rapport qui a été publié la semaine passée à Montréal démontrait qu'il y avait eu une hausse de la violence chez les jeunes entre eux entre 2016 et 2023. On parle de 36% avant qu'ils recevaient des différentes sortes de violences. 41%. 5 ans plus tard, c'est quand même une grosse augmentation, c'est 5 points de pourcentage. Puis justement, c'est ce que Nicolas Salé m'expliquait, que les tensions de la société, ben ça se répercute chez les jeunes aussi.
Les enfants, les adolescents aussi, ils fonctionnent souvent comme une caisse de résonance des tensions, des rapports sociaux. Voilà, ils reprennent un peu les tensions que traverse la société. Parfois même, ils les exacerbent, hein, notamment dans les interactions entre eux, dans les interactions entre pairs. Il y a des travaux récents là, qui ont été menés auprès d'enseignants. Je pense à un rapport récent qui montre, par exemple, une hausse de formes d'intolérance, des propos sexistes, homophobes, transphobes, qui semblent à la fois plus fréquents, plus décomplexés. Alors ça, c'est important parce que je pense que ça renvoie pas simplement à plus de violence en général, mais à des formes situées, liées au débat qui traverse aujourd'hui la société. Alors là, sur la question de genre, d'identité, de normes, peut-être même de racisme, de religion, qui sont devenus des sujets de confrontation dans la société, dans son ensemble, et qui va se rejouer dans des espaces, notamment des espaces scolaires ou des espaces sportifs, parfois de manière assez directe.
Mais tu sais, même au-delà des grands débats de société, là, parce que je veux dire, quand t'es jeune puis t'es à l'école, là, t'es pas nécessairement dans tout ça, là, j'ai comme l'impression que c'est parce qu'on se donne le droit de passer des mots aux mains. Tu sais, quand t'étais jeune, à l'école, au secondaire, je veux dire, l'intimidation, ça a toujours fait partie de la game, qu'on le veut ou qu'on le veut pas, même si on voudrait l'éradiquer, là, c'est là. Et les mots ont toujours été forts. C'est méchant, un enfant, là. Mais rares sont les moments où un enfant ou un ado passe aux mains, passe aux coups, passe à la violence physique, tu sais. Tandis que c'est des choses qu'on voit de plus en plus, comme si on se permettait ça. Moi, j'ai entendu des gens autour de moi dans les derniers mois, s'ils n'arrêtent pas de t'écœurer en LinkedIn, claque. On dirait qu'on revient en arrière.
On fait un retour
là.
Dans le temps, oui. Puis pas un retour positif.
Pas un retour positif. Puis le pire, c'est qu'on se parle, mettons, dans 20 ans, puis peut-être que là, on va être bien peace and love. Là. On va être dans un autre
extrême.
On
le souhaite, du moins,
on va être dans un autre
que ça aille mieux.
Oui, mais encore là, c'est cyclique.
Ouais.
Ça va toujours revenir. Tu sais, c'est, je sais pas comment on est capable de cesser ça, mais moi, des fois, c'est plate à dire, mais je me recule puis je me dis qu'on... On peut rien faire pour ça, là.
Ah ben, il y a quand même certaines pistes de solutions, puis on va y venir dans un instant.
Peut-être
rendu
découragé,
là, Marc. on cite beaucoup des réseaux sociaux comme une cause, parce que, par exemple, on a parlé des enfants, des jeunes adolescents, par exemple, ces tensions-là, si c'était pas du réseau social, des réseaux sociaux ou encore de leurs parents, ben ça se répercuterait pas nécessairement autant dans les écoles, cette haine-là que ressent la société, parce que... Puis Nicolas Sadé va l'expliquer sans nécessairement être une cause du problème que l'on vit actuellement. Les réseaux sociaux, ben, c'est un amplificateur direct.
Les réseaux sociaux, j'en ferais pas une cause. C'est sûr que je pense que c'est vraiment pas à négliger, c'est un vrai enjeu. Je pense qu'ils jouent un rôle plutôt d'amplificateur. Vous voyez, les réseaux sociaux, ils vont rendre les conflits, ils vont rendre les tensions plus visibles, ils vont les rendre plus rapides. Parfois, ils vont les rendre plus brutaux aussi dans leur expression. Et ils vont prolonger les tensions au-delà des lieux physiques. Alors ça, pour le coup, l'école en est une manifestation, c'est-à-dire des tensions dans l'espace physique de l'école vont se prolonger dans les espaces numériques, vont parfois les amplifier, les rendre visibles. Parfois, la visibilité même de la violence va devenir un enjeu dans les relations entre jeunes. Donc voilà, les réseaux sociaux, à mon avis, c'est pas la cause, mais ça s'inscrit dans un contexte plus large de polarisation.
C'est tellement facile aussi, je pense que ça part beaucoup de là aussi. Là. Ça normalise un peu la violence, traiter quelqu'un de se manger une marde. Que t'aurais jamais fait ça dans la vie, croiser quelqu'un et traiter de se manger une marde. Mais là, tu le fais sur les réseaux sociaux, puis là, tu te mets à le faire, puis là, ça devient peut-être normal à un moment donné de le faire dans la vraie vie aussi.
Puis tu peux le faire sous l'anonymat, t'es pas directement face à la personne. Aussi.
Oui, mais comment tu règles ça? Tu sais, dans le sens que. Puis je reviens à mon point de.
On éradique la race humaine.
Non, mais tu sais, personnellement, moi, j'essaie de protéger mon petit terrain, mon petit entourage, là, puis de repousser ces gens-là que je trouve trop intenses dans leur réaction puis dans leur façon de s'exprimer, là. Mais je veux dire, il y a comme une limite à ce que tu peux faire, là.
Non, effectivement. Puis je pense que, comme M. Sadé, qui, je le répète, est enseignant en sociologie à l'Université de Montréal, selon lui, ça passe par une certaine réglementation des réseaux sociaux, par contre.
Il faut aussi écouter puis trouver des solutions de régulation des usages des réseaux sociaux qui incluent aussi les jeunes et les usages qu'ils en font. Il n'y a pas que des mauvais usages, vous voyez. Donc, dans l'interdiction, il y a peut-être quelque chose d'un peu trop unilatéral. Je pense qu'il faut aussi écouter et puis voir comment est-ce qu'on peut travailler les bons usages, proposer de l'éducation numérique, mais une éducation qui soit pas juste descendante des adultes vers les jeunes, mais qui soit aussi une sorte d'interaction entre des inquiétudes adultes qui peuvent être légitimes et des pratiques juvéniles qui peuvent être intéressantes aussi.
Puis ça, je pense que c'est indéniable. Il y a un manque d'éducation sur les réseaux sociaux, sur la manière de l'utiliser. Je sais pas comment que ça se passe lorsqu'on est jeune maintenant. Mais moi, par exemple, je veux dire, j'ai 22 ans, j'ai grandi là-dedans, puis pourtant, j'ai jamais eu de réelle éducation sur comment bien utiliser les réseaux sociaux. Je veux dire, on a été beaucoup sensibilisés à ça en ATM parce qu'on allait devenir des personnalités publiques d'un certain sens, ça, en faisant de la radio, en faisant de métier dans les médias. Mais sinon, pas une grosse sensibilisation. Puis autre que les réseaux sociaux, va aussi falloir qu'il y ait un travail social derrière ça, parce que Nicolas Sadé l'expliquait, c'est pas juste les réseaux sociaux, c'est qu'on a un problème de société présentement. Et comme je l'ai dit, un politique qui instrumentalise les différentes tensions entre différents groupes, faudrait que ça arrête, parce que veut pas, ça rend le débat normal, ça rend des discussions haineuses de plus en plus normales, puis présente dans l'espace médiatique également.
Donc, bref, il y a une montée de la violence.
Il y a une montée de la tension. Oui, il y a une montée d'attention puis des discours haineux en société, on peut le dire.
Mathias Turcotte, un gros merci. Je rappelle que tu as parlé avec Nicolas Sadé, sociologue, enseignant en sociologie à l'Université de Montréal. On rappelle qu'on peut toujours t'écrire si on a des dossiers, des propositions. Citoyen, pas de S ou avec un...
Pas de S.
Citoyen, pas de S, à commercial, blvd.fm. Mathias Turcotte, notre journaliste. Merci, Audrey, on t'écoute dès 14h.
Oui, Véro qui est absente pour la semaine, ce qui fait que c'est Gab Marino qui se joint à Denis et moi.
Yes.
Ça sera pas aussi juvénile avec toi, certainement, mais on va probablement... Ben, parce que Gab est un peu plus mature, un peu plus...
Gay.
Je ne sais pas si on va te parler cette semaine. On a Gab avec nous, fait que c'est sûr qu'on va l'utiliser pour les sports.
Ouais, c'est sûr, il est moins bon, là, mais...
Tu jaseras de Sagdon.
Fait job, fait job. Merci, Audrey, on t'écoute, puis on va savoir aussi... en fait, on va-tu le savoir dans le retour si ton œuf est accepté à 16h de maison?
Peut-être.
OK.
Hey, là, tu viens de me remettre le stress, j'ai eu le temps de l'oublier.
Ben, soyez là à 16h pour savoir si Audrey va pleurer ou être contente.
Oh, bon.
OK, hey, au retour, on fait un tour des nouvelles. On regarde aussi un... Je vais faire un petit tour là, des gagnants des Junos, ce gala pour fêter la musique canadienne. C'était en fin de semaine, puis il y a quelques petites catégories que je veux qu'on regarde ensemble. Et aussi, Pascal CV vient faire son tour en fin d'émission, 11h30 dans le Point de Max.
Le Point de Max.